Au-delà du live, le décryptage mensuel de l'actu numérique.
Bonjour à tous et bienvenue dans Au-delà du live, votre revue d'actualité mensuelle sur le numérique. Bonne année à tous, on commence par là forcément. Bonne année à tous de la part de toute l'équipe des Voix du Digital. On espère que cette année 2024 sera synonyme de santé et de réussite pour vous. Au-delà du live reprend du service et j'ai encore et toujours le plaisir d'être accompagné d'Alain Garnier. Alain, comment ça va ?
Eh ben écoute, super, bonjour à tous, et puis moi aussi je souhaite une bonne année, on est encore un petit peu avant la fin janvier, donc là on peut encore souhaiter une année magnifique, merveilleuse, numérique pour tous.
Exactement, tu sais on est en France, hein, donc voilà, mais peut-être qu'on vous le re-souhaitera mi-février dans le prochain épisode, histoire de continuer la tradition. Alors, donc oui, alors petit rappel, voilà, vu qu'on est sur le premier épisode de l'année, si vous suivez au-delà du live depuis un moment, bah déjà merci, et puis vous savez ce que vous faites ici. Si vous ne le connaissez pas, donc je rappelle que Alain est entrepreneur, expert, coach dans le numérique, activiste aussi un petit peu.
Est-ce qu'on... Oui, bah sur les questions numériques justement, pour un monde justement, vu qu'on est dans les vœux, un monde plus juste, plus égalitaire, avec plus de chances pour tous.
Exactement. Donc voilà, Alain a vraiment plusieurs casquettes dans le numérique depuis plus de 30 ans, hein, il faut le souligner. Et le principe d'au-delà du live est que j'échange avec Alain. J'invite Alain justement à analyser et à partager son avis, son analyse, son expertise sur des sujets d'actualité mensuels. Voilà, on fait ça tous les mois. Maintenant que vous connaissez le principe de l'émission et que vous savez un petit peu qui est Alain, une personne que vous gagnerez à connaître, je vous le dis. Place au sommaire de ce 37e épisode, le premier épisode de 2024. Alors, on s'intéressera tout d'abord à la polémique autour de la messagerie Olvid, donc une polémique au niveau du gouvernement français. On parlera ensuite de Shadow, le spécialiste français du cloud computing, repris il y a 2 ans par OVH, qui traverse quelques zones de turbulence. On reviendra dessus en détail. On reviendra ensuite sur Segnum Cloud, le fameux référentiel sur la sécurité des systèmes d'information que beaucoup d'hébergeurs français cherchent à acquérir. Et on terminera enfin début d'année oblige par les enseignements qu'ont tirés les DSI de l'année 2023. Voilà, quelles ont été les leçons, entre guillemets, qu'ont appris les DSI l'année précédente. Au-delà du live numéro 37, c'est parti. Alors, on commence tout de suite, Alain, avec une polémique qui a fait quand même pas mal parler d'elle, celle de la messagerie Olvid. Donc, c'est l'ancien Premier ministre Elisabeth Borne qui a sommé les ministres de n'utiliser aucune solution de messagerie sécurisée en dehors de la messagerie Olvid. Donc, une belle mise en lumière hein, pour cette solution qui est certifiée par l'ANSSI, mais qui a amené la sphère médiatique à se pencher sur certains détails. Et c'est là qu'est né le drame, j'ai envie de dire, puisque l'application utilise AWS, donc le service cloud d'Amazon, pour l'hébergement de son serveur de distribution de messages. Donc, voyant la polémique enflée, Olvid a quand même pris le temps de communiquer afin de préciser certaines choses sur la situation, en mettant en avant notamment sa technologie de chiffrement de bout en bout, ou en expliquant très clairement les raisons qui l'ont poussé à choisir AWS, comme par exemple, je cite, la qualité de service, la maintenance et la capacité justement de passage à l'échelle de l'entreprise. Voilà, donc, l'entreprise Olvid a expliqué un petit peu tout ça. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette situation, Alain ? Et moi, j'ai l'impression, mais ce n'est que mon avis, que potentiellement, il existe un fossé entre l'idée qu'on peut se faire de la souveraineté numérique, un sujet qu'on aborde très régulièrement dans Au-delà du live, qui est important pour nous, parce qu'on est également, je le rappelle, éditeur de logiciels. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé, justement, entre l'idée que se font potentiellement les gens de la souveraineté numérique et la réalité du terrain ?
Oui, il y a un fossé, mais il y a aussi une recherche de pureté qui amène à ce qu'on tombe dans le fossé, quoi. Si on prend l'histoire d'Olvid, c'est vraiment intéressant parce que donc une messagerie où ça fait longtemps qu'on dit ah mais pourquoi est-ce que l'État utilise pas Olvid plutôt qu'utiliser WhatsApp hein, pour prendre le plus connu. Et à un moment donné, en fait, il y a vraiment deux choses là qui je trouve rentrent en jeu dans cette histoire, c'est que il y a une décision politique qui on va dire va dans le bon sens. Elle dit maintenant, mesdames et messieurs les ministres, vous allez utiliser Olvid et non plus, vous êtes avec une interdiction parce que sinon ils avançaient pas beaucoup. Le problème, c'est qu'on a un problème de pureté dans les deux dimensions qui sont un la sécurité et d'autre la souveraineté. Alors pureté on va commencer par celui de la souveraineté, c'est celui qui crée le scandale. On découvre qu'effectivement ils utilisent AWS. Bon, Alors c'est vrai que Covid aurait peut-être pu faire un petit effort là-dessus, vu toute la communication très pro-souveraine qu'ils font, parce que finalement, ça pose toujours le problème, à un moment donné, les datas sont où chez AWS, AWS est un américain, donc les services de renseignement peuvent avoir accès à ça. Bon alors après, de là, craquer les messages, ça coûte cher, etc. Mais en tout cas, déjà, c'est pas très habile, effectivement, de ce côté-là, mais d'un autre côté, on pourrait dire qu'on n'est pas obligé d'attendre une pureté, que tout soit souverain. Parce que dans ces cas-là, est-ce que les électrons qui arrivent pour faire marcher ton téléphone, il est souverain ou est-ce qu'il vient d'ailleurs, hein, sait-on jamais, c'est peut-être du gaz russe, mon Dieu, Benoît, t'as pas honte. Voilà, bon. Donc là, il y a un côté pureté. Mais il y a une autre pureté aussi. C'est Covid s'est bâti sur le fait de dire, ah là là, mais nous, on est tellement sécurisés que même le carnet d'adresse n'est pas accessible. Donc par exemple, pour que quelqu'un parle à quelqu'un d'autre, il faut qu'il s'échange un code. Ok. C'est sympa, mais simplement, c'est que c'est très difficile à utiliser, du coup. Tu vois, alors, dans des domaines où c'est les généraux qui parlent aux généraux, les ministres aux ministres, pourquoi pas. Mais les ministres, ils parlent à plein de gens. Ils parlent aussi aux journalistes, ils parlent... Et donc, c'est très compliqué. Et donc, il y a une espèce de logique de pureté, d'absolu, mais qui fait que, finalement, on passe de... Ah ben, dans ces cas-là, autant aller sur WhatsApp, c'est gratuit, c'est américain, et là, on se fait piller nos données. Mais une souveraineté, on va dire, qui serait médiane, avec, par exemple, soit... Effectivement, Olvid, on n'aurait pas cette espèce de système avec double authentification des codes, en tout cas pas pour tout le monde, peut-être pour le président quand il parle au Premier ministre, mais pas pour les autres. Et bien, ce serait une messagerie plus simple à utiliser. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Patatras, nouveau gouvernement. Et la première décision de Gabriel Attal a été de dire, bon, on arrête Olvid, j'ai une connerie, ça ne marche pas et c'est trop compliqué. Voilà. Donc en fait, et ça renvoie encore l'idée que tout le monde est puni dans cette affaire. Olvid, comme quoi il aurait pas été bien parce qu'il n'est pas totalement souverain, totalement pur. Et puis finalement, l'usage, ça dit, oh bah, vous voyez, c'était pas aussi bien comme quoi hein, les Américains, c'est quand même mieux. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il y a une volonté de pureté, encore une fois, de sécurité qui est trop forte, par exemple, sur cette application. Donc, moi, c'est ça que je vois. Donc, tu vois, je reformulerai ce que tu dis entre le terrain et ce qu'on en attend. Ou plutôt, c'est parce que quelque part, les politiques ou ceux qui attendent quelque chose de la souveraineté, là, ça doit devenir totalement pur. Si c'est pas pur, ça vaut rien et il vaut mieux de l'américain. C'est ça qui est absurde, tu vois. Alors qu'il vaut mieux un souverain à 90% qu'un souverain à 0%. Oui, si c'est pas 100%, c'est ah non, ah non, ah non, ah non. Et donc, dans ces cas-là, on met en situation d'échec les boîtes qui font des choses plutôt pas mal quand même, tu vois. Donc... voilà, c'est vraiment ce que je retiens sur ce truc-là, et encore un rendez-vous manqué, parce que, encore une fois, on se met dans cette position de pureté.
À force de rechercher la perfection, au final, on se tire une balle dans le pied et on n'arrive pas à faire.
Le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. À un moment donné, tu vois, c'est juste, à un moment donné, de la bonne souveraineté, c'est pas de la souveraineté de tout pour tout. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Et en plus, surtout, tu sais, moi, mon approche qui est plutôt justement de créer un. De la diversité, donc...
Oui.
Mais c'est un triste... c'est un épisode malheureux parce qu'il va laisser des traces. Ce sera très difficile pour un gouvernement d'imposer une solution. Donc, on est revenu vraiment... là, on est comme au rugby, on a reculé, là. Tu vois, on a reculé parce qu'effectivement, il y a une décision qui était un petit peu... D'ailleurs, qui est sortie comme ça, du chapeau, et qui, finalement, n'aide pas aussi la cause, j'ai envie de dire, plus générale des acteurs de la souveraineté.
Merci, Alain. Donc, sans transition, on enchaîne avec un sujet que j'avais plutôt hâte d'échanger, sur lequel je voulais échanger avec toi, justement. C'est à propos de Shadow, voilà, le spécialiste du cloud computing, qui a été racheté, rappelons-le, par Octave Clava, le patron d'OVH, il y a maintenant 2 ans. Et qui avait également bénéficié d'un partenariat avec le moteur de recherche Quant, le moteur français, et qui avait dont le but était justement d'aboutir à la création de Symfonium, qui est une nouvelle entité dont l'objectif était de devenir un acteur majeur dans le secteur des technologies en Europe. Voilà. Shadow qui s'appelait, si je ne dis pas de bêtises, Blade auparavant, et qui était vraiment sur le cloud gaming. Donc Shadow traverserait une période difficile, de ce que nous dit le média L'Informé. Pour le coup, on peut citer pêle-mêle la fuite des talents, le départ de son directeur général Eric Sell, suivi de près par celui du directeur de la communication, ainsi que la mise en arrêt de la directrice des ressources humaines. Ça fait beaucoup, comme on dit. Et enfin, malgré les investissements réalisés par les frères Klaba, force est de reconnaître que la société Symphonium, du coup, le projet de partenariat entre Quant et Shadow, n'a pas réussi à donner naissance au projet d'Octave Klaba, qui était de créer un concurrent européen aux suites de travail américaines bien connues du côté de Google et Microsoft. Shadow s'étant détourné, on va dire, du cloud computing, plutôt du gaming, qui était son offre originale, pour proposer ses services aux entreprises. Donc une situation délicate pour Shadow, Alain, qui a du mal, en même temps finalement que le marché du cloud computing, hein, c'est pas ils sont apparemment pas les seuls concernés, qui a du mal à décoller. Comment est-ce que toi, tu analyses cette situation 2 ans après le rachat de Shadow par OVH?
Ah, pas par OVH, hein, par Octave Klaba, déjà, Klaba, oui, voilà, et sa holding. Alors, je connais en plus tout ce petit monde, hein, donc là, on est aussi vraiment dans justement le numérique français aussi, qui se débat pour essayer de construire un monde nouveau. Et moi, effectivement, là, on s'interroge où va Octave, en fait. Où est-ce qu'il emmène tout ça? Parce que clairement, le rachat de Shadow, c'était plutôt une belle opportunité. Il a obtenu d'ailleurs le fait, après, de rapatrier ses machines aussi, en partie chez OVH. Donc, par exemple, Shadow aujourd'hui amène du chiffre d'affaires à OVH. Hein, c'est dit d'ailleurs dans l'article. Il y avait cette idée justement ensuite de reprendre compte avec Symphonium, mais aussi la Caisse des dépôts. Donc, l'État est derrière pour justement faire émerger un champion. Alors, mais de quoi parce que derrière, en fait, on voit le gaming d'un côté, on voit ensuite le cloud computing, ensuite on voit le moteur de recherche. Il y a une stratégie qui est pas forcément évidente. Et puis, derrière, cette idée systématique de dire on va faire un concurrent de Office 365. Ah, d'accord. Donc là, on se dit, ah bon, alors c'est, oui, 365, alors on voit pas bien, parce que 365, c'est la partie bureautique. Alors, il n'y a pas de bureautique là-dedans. Hein. Alors, avant, il y avait effectivement ce que faisait OVH avec effectivement une brique de drive. Bon. Mais donc, on est un peu, voilà, il y a des éléments épars, puis surtout, on se dit, mais Office 365, aujourd'hui, il y a 3 projets qui ont été financés dans le cadre de France 2030, qui sont 3 projets d'industriels qui ont réuni des industriels autour d'eux pour justement faire ça. Et ces 3 projets, en fait, ils ont quand même le soutien de l'État d'un côté. Alors, l'État, il arrive avec la Caisse des dépôts de l'autre pour refinancer aussi un autre projet de concurrent Office 365. Tiré par Octave Klaba à travers cette reprise de tout ça. Donc c'est difficile de lire, en fait, la stratégie derrière tout ça. Et donc effectivement, là, on voit bien que la greffe, en tout cas, n'a pas pris avec les personnes qui avaient été mises justement en responsabilité. Voilà, est-ce que Octave, justement, c'est ce qui est dit aussi dans cet article, hein, est-ce qu'il est trop présent, il laisse pas les choses grandir, est-ce qu'au contraire, il sait exactement où il va et il n'avait pas trouvé les bonnes personnes pour... Enfin, c'est quand même... Ça interroge surtout de la part de celui qui est normalement le porte-parole du monde du cloud. Voilà, donc... Ouais. Il faudrait pas qu'on ait un peu l'équivalent de ce qui se passe aux États-Unis quand tout d'un coup les patrons des GAFAM font un peu n'importe quoi et qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe, parce que voilà, surtout qu'en plus là c'est fait sans beaucoup de moyens, enfin on voit bien c'est fait beaucoup avec des bouts de ficelle de boîtes qui ont été reprises un peu à la barre, voilà, donc c'est ça interroge, voilà, moi ça m'interroge beaucoup et je pense que ça aussi ça n'aide pas à ce que le numérique soit plus clair au sens avec un leader qui prend des positions fermes par rapport aux acteurs existants. Là, ça bricole sur le côté, tu vois, c'est pas pour moi c'est pas qui sommes nous, on est au cœur de ce sujet là, hein, tu vois, on voit bien. Et donc ça entretient le flou, et quelque part, si par exemple il y a encore une autre annonce d'une solution qui arrivera un jour pour concurrencer 365, pendant ce temps-là, ça ne fait que renforcer la position de Microsoft finalement. Lui au moins il est là aujourd'hui, on peut compter sur lui. Donc les alternatives à 365, ça les fait pas grandir, tu vois, alors que par exemple avec OVH ou avec Shadow ou avec Symphonium, il y aurait vraiment autre chose à construire de plus rapide avec les acteurs en place.
Ouais, c'est un point sur lequel que je trouve intéressant, c'est que tu dis leur volonté affichée justement, c'est de proposer une alternative à Office 365. Est-ce que ça c'est pas finalement la conclusion plutôt que la stratégie, l'objectif Est-ce qu'il y a justement ils prennent pas la chose par le mauvais bout en disant on veut être concurrent, mais en fait ça ne répond pas à une problématique ou un objectif précis. Bah, quelque part.
Justement, le truc c'est que je vais pas juger bon bout mauvais bout. Tu sais, une stratégie, ça se juge toujours au résultat.
Oui.
Et après on écrit l'histoire avec les vainqueurs. Après, il y a des chemins un peu plus périlleux. Puis il y a des fois on dit waouh, c'était bravo l'artiste. D'accord. Tu vois, moi je suis toujours très très. Pour ça que je parle plutôt, ça m'interroge plutôt que de dire ça marchera jamais. Ça je le dis assez peu. Par contre, après il y a des voix où on se dit mais elles sont pas logiques. Ça ne semble pas logique, voilà. Donc, c'est plutôt ça, moi, qui m'interroge. Mais des fois, il faut être disruptif. Mais du coup, on attend. Et comme là, effectivement, il y a remise à plat du management, c'est qu'en général, ça ne s'est pas bien passé sur la première phase. Bon, donc, il va falloir trouver une disruption 2, tu vois. Une meilleure suite à la première épisode. C'est surtout ça, en fait, que ça renvoie, tout simplement.
Merci Alain, on passe tout de suite au sujet suivant, le troisième sujet. Alors c'est un sujet dont on a déjà parlé maintes et maintes fois dans au-delà du live, mais qui est important, le fameux label Segnum Cloud, qui est, je le rappelle, la qualification, donc une qualification qui est proposée par l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, et qui, si vous ne la connaissez pas, chers auditeurs, permet aux prestataires d'hébergement dans le cloud, donc typiquement, par exemple, Auberge, dont on vient de parler très rapidement, qui permet justement à ces différents prestataires de démontrer un certain niveau de sécurité. Voilà, c'est une qualification qui atteste de la robustesse et de la qualité d'une offre de service dans le cloud. Vous voulez que vos données soient hébergées, l'hébergeur vous montre justement le label Segnum Cloud, preuve justement que son système est solide et répond à un certain nombre de sécurité. C'est une qualification qui est activement recherchée par plusieurs hébergeurs français aujourd'hui, hein. On peut citer pêle-mêle OVH Cloud, Cloud Temple, Free Pro, donc voilà, il y a vraiment, vraiment plusieurs institutions françaises, plusieurs hébergeurs français qui s'y intéressent. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Alain, là-dessus? Parce que Segnum Cloud, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Si je dis pas de bêtises, c'est quand même une qualification qui est tout sauf évidente à récupérer, à obtenir.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire au niveau, par exemple, de l'impact du marché et justement le fait que ce soit quand même vraiment pas évident du tout d'obtenir cette qualification, hein.
Alors déjà, sur Segnum Cloud, au départ, c'était plutôt pour les hébergements cloud, et puis ça a été étendu à des éditeurs de logiciels. Bon, ça, moi, j'ai toujours été plutôt très réticent là-dessus, mais bon, ça a été un choix de faire un full stack là-dessus. Et donc, ça tape de plein fouet tous les petits éditeurs de logiciels, et ça, c'est à mon avis pas une bonne idée, là aussi, encore une fois, pour l'écosystème. Mais si on descend sur les hébergeurs, là, par contre, on a des gros bestiaux, et quelque part, certains s'y sont... plutôt aller plus ou moins vite. Et ce qui est notable là en ce début d'année, effectivement, c'est l'annonce de Free Pro. Alors au départ, même je confesse, sur LinkedIn, je m'étais trompé parce que j'avais fait l'amalgame entre Free Pro et Scaleway, parce qu'en fait ça appartient tout ça à Iliad, donc le groupe de Xavier Niel. Mais en fait, c'est Free Pro, hein, sur la partie hébergement, qui engage sa certification Segnum Cloud, sachant qu'effectivement, une de ses forces, Segnum Cloud, au lieu de dire « ouais, c'est super sécurisé », on retrouve l'action de la pureté, hein, tout à l'heure, hein, c'est pour ça que je suis très méfiant de cette vision. Au départ, elle était prévue pour les endroits qui étaient les 1% des systèmes, tu vois, pour le président, tu vois. Ouais. Et puis là, c'est en train de s'éteindre, voilà, toutes les villes, tout le monde veut être Segnum Cloud, parce que ce serait le truc de confiance, tu vois. Bon, donc, parce qu'on a rajouté en plus ce qu'on appelle l'immunité aux lois extraterritoriales. En gros, en clair et sans sous-titre, ça veut dire que les Américains ne peuvent pas avoir les données. Bon. Globalement, c'était une bonne idée, sauf que ça met encore une fois une énorme pression sur tous les acteurs. Mais bon an, mal an, ils sont tous obligés d'y aller. C'est pour ça que quand Free Pro y va, pour moi, c'est un signe, parce que longtemps, la maison Free était plutôt frileuse, hein. Elle ne voulait pas y aller. Scaleway ne voulait pas y aller. Elle a pris des positions même publiques. Et puis finalement, ils ont changé de doxa, parce que le marché va vers ça. Donc, on va voir aussi l'impact que ça a. Est-ce que c'est un appel d'air de marché? OVH a l'air de dire oui, Outscale dit oui, mais bon, ils ne vont pas dire non. Voilà, pour l'instant, le cours de bourse n'est pourtant pas extraordinaire, mais bon, côté OVH, mais on va dire qu'ils disent qu'ils ont plein de clients, etc. Nous-mêmes, on voit d'ailleurs des demandes pour aller vers Segnum Cloud, donc il y a bien un mouvement, mais de quel ordre est-il? Quelle ampleur? Et puis, est-ce que finalement... il ne va pas y avoir la norme européenne CEUCS qui devrait arriver, qui va ratiboser tout ça. Donc, on est toujours dans une phase d'incertitude, mais quand même avec, mois après mois, plus d'acteurs qui sont quand même engagés dans Segnum Cloud. Donc, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Tout le monde, finalement, est rentré dans ce schéma-là. peut-être d'ailleurs avec une normalisation d'ici 1 ou 2 ans, quand le catalogue, tout le monde sera SecNum Cloud, bon bah voilà, ça sera fait. Peut-être qu'en parallèle, d'ailleurs, ils auront non pas diminué les exigences, parce que quand on dit ça, ils paniquent, l'ANSI ne peut pas imaginer, mais quand même faire des audits peut-être un peu adaptés pour les PME, par exemple, parce que sinon, effectivement, il y aura du dégât, et ça je le dis depuis le début, il y aura du dégât sur des acteurs qui auront engagé des ressources qui n'arriveront pas au niveau SecNum Cloud et qui ne pourront pas accéder à des marchés, en particulier les marchés publics, mais pas que. Et là, du coup, on aura des boîtes de 2 millions qui vont tomber parce qu'elles ne pourront plus croître, pendant que celles qui sont internationales, elles n'auront pas le problème parce qu'on ne leur demandera pas ça. Donc il est là le nœud gordien, et je regrette toujours qu'on ne soit pas arrêté à la taille des acteurs et des hébergeurs qui aurait fait qu'il y aurait eu 3, 5, 7, peut-être allez, 10 grands max hébergeurs SecNum Cloud en France. Et là, ça aurait vraiment bien verrouillé le marché. Tout le monde serait allé sur cela. Il y aurait une concentration autour des hébergeurs. C'était ça la bonne voie. Donc voilà, on est toujours dans ce moment-là. Et j'attends les évolutions, que ce soit de l'ANSI ou du gouvernement ou du marché, pour voir comment ça va se cristalliser. C'est super lent, en fait. Enfin, tu vois, ça fait 2 ans qu'on en parle. Et là, tu vois... C'est une évolution qui se fait, mais vraiment très très lente en fait. Hein. Donc la résolution de tout ça, ce sera à mon avis pas avant 2 ans.
C'est intéressant parce que si on fait le lien du coup avec le premier sujet qui était justement la messagerie Olvid, enfin l'affaire Olvid en quelque sorte, c'est qu'on sent un effet de bascule du marché, que le gouvernement, enfin que le milieu politique, que les entreprises du coup commencent à embrasser, si tu veux, ce thème de souveraineté numérique qui, rappelons-le, pendant des années était un sujet de niche, hein, porté par certains éditeurs dont GameSpot, mais qui n'était pas du tout porté au niveau national. Là, on sent un mouvement de bascule, mais on sent aussi avec le côté un peu c'est pas maîtrisé. Ce que tu disais, la recherche de la pureté absolue, ça part dans tous les sens, et du coup, c'est un risque pour les petits acteurs, ça c'est ce que tu...
C'est ça. Plutôt que d'avoir une politique qui aurait pu être totalement simple, qui était de dire, on a bien compris la souveraineté numérique, maintenant on va mettre en œuvre que les acteurs politiques qui font des choix aillent plutôt vers là, de manière en fléchant à travers des dispositifs beaucoup plus simples. Par exemple, on veut que localiser les expertises et les compétences, ce qu'on a le droit de faire contrairement à ce qu'on dit sur les marchés publics. Et quand bien même, si on a vu des marchés publics qui avaient été dénoncés par Microsoft, alors là, enfin, on aurait pu dire, bah tiens, on est allé trop loin. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un seul marché public qui a été attaqué par les GAFAM? Jamais. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais été trop loin dans la souveraineté. Voilà. On n'a jamais été trop loin pour dire, moi, en tant qu'élu local, je choisis la solution qui est dans mes régions. Donc ça, c'est vraiment une façon beaucoup plus simple de prendre les problèmes, alors qu'on les a pris d'un point de vue normatif, qui sont les pires pour les petits. Parce que bah là, tiens, je fais un parallèle avec l'actualité. Moi, je me suis levé ce matin avec des tracteurs, pas devant chez moi, mais sur les autoroutes françaises. Et pourquoi est-ce que les agriculteurs? C'est parce qu'il y a un moment donné, on leur donne des lois européennes françaises qui sont de plus en plus importantes pour avoir de moins en moins d'accès au marché. On leur dit, par exemple, ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça, mais par contre, en parallèle, on ne va pas vous acheter parce qu'on va acheter du poulet qui vient de je ne sais où, etc. Mais les mecs, ça les rend fous. Enfin, on ne peut pas en même temps demander plus à des gens et moins leur acheter. Or ça, c'est exactement le risque qu'on a avec un truc comme SecNum Cloud. C'est qu'à la fin, ou comme tu vois ce qui arrivait à Olvid, finalement on lui met plus de contraintes sur la sécurité, et puis après on dit « mais non, mais je t'achète pas parce que c'était trop compliqué ». Il y a de quoi être un peu... C'est ubuesque. Mais par exemple, on a la même chose avec là, par exemple, le Health Data Hub. Le Health Data Hub, ils ont refait un appel au marché. Première salve, il y a des acteurs qui ont répondu, mais qui répondaient aux critères. Les mecs ont dit, ah oui, non, mais il faudrait que ce soit SecNum Cloud. Bah, ils disent, bah, attendez, on peut pas être SecNum Cloud. Mais aujourd'hui, vous tournez sur Microsoft, il n'est pas SecNum Cloud. Ah oui, mais vous, il faut l'être. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord. Donc, nous, en fait, il faut qu'on porte des responsabilités plus fortes, plus pures, encore une fois. En gros, vaut mieux être totalement pur que... et puis sinon, on prend de l'américain. C'est là où on se dit que c'est vraiment quelque chose de très hypocrite dans l'approche. En fait, parce que, et ça, par contre, je le dis aux managers ou aux gouvernants qui m'écoutent, vous avez vu ce que ça fait chez les paysans, ça crée de la colère et de la violence, ouais, c'est tout. Parce que vous pouvez pas en même temps demander aux gens plus d'efforts pour leur donner moins de manière injuste. Ça, les gens, ils aiment pas. Ça, ils supportent pas. On peut leur donner moins, parce qu'il y a moins, mais quand on leur, en plus, on leur oblige des contraintes qui amènent de l'injustice, ça crée vraiment les conditions de la... Ben oui, de la révolte. Hein. Et je pense que dans le domaine numérique, cette révolte, elle peut arriver un jour, on ne saura pas comment d'ailleurs, et on sera surpris quand il y aura des gilets jaunes en clavier, des claviers jaunes. Mais non, mais tu vois, justement, ça viendra je ne sais où, parce que forcément, ce sera pas... Mais parce que on n'aura pas pris des positions pragmatiques sur cette question. Voilà.
Merci beaucoup Alain, je te propose de passer maintenant au dernier sujet de ce 37e épisode avec la question suivante. Que retiennent les DSI de l'année 2023?
Mais oui.
C'est voilà, vaste question, hein, surtout chez nos amis DSI qui ont été, voilà, niveau technologie numérique, 2023 a été, vous le savez je pense, quand même assez riche en actualité. C'est le monde informatique qui s'est intéressé au sujet et qui a listé pas moins de 9 enseignements pour les DSI en 2023. Je ne vais pas tous vous les lister bien sûr. Vous retrouverez bien entendu le lien vers l'article dans le descriptif du podcast, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. De mon côté, 3 enseignements ont retenu mon attention, je trouvais intéressant. Je te laisserai partager les tiens bien sûr Alain, ou en tout cas me dire ce que tu as retenu de l'article pour voir si on est aligné. Donc pour moi les trois enseignements, le premier c'est tout d'abord l'importance selon les DSI pour les entreprises d'être brillants sur l'agilité, la flexibilité et l'adaptabilité. Donc l'idée est de dire qu'avec la rapidité d'évolution de la technologie, encore une fois, on l'a bien vu en 2023 avec l'IA, les entreprises doivent faire preuve d'adaptabilité et d'agilité pour être en mesure de s'emparer de l'innovation. L'innovation va très vite, soyez agile, ne soyez pas ancrés dans la terre. Voilà, le but n'est pas le but est d'être vraiment rapide et agile sur ces questions-là pour pouvoir justement les adopter d'autant plus facilement. Le deuxième point, c'est déployer une approche globale sur l'IA. On en parlait, donc développer une approche volontaire de l'IA en mettant sur pied des règles de gouvernance et des bonnes pratiques pour explorer les usages possibles. Voilà, l'IA, ça crée de la peur chez les uns, beaucoup d'excitation chez les autres, et une troisième catégorie, je dirais, qui ne sait absolument pas où foutre les pieds par rapport à ce sujet-là, qui va juste plus vite que la lumière. Donc voilà, le but, c'est d'être quand même d'être volontaire là-dessus, de tenter justement des expérimentations auprès des collaborateurs, en faisant attention au niveau de la gouvernance, bien entendu. Le dernier, c'est l'optimisation des modèles hybrides. Le travail hybride est là pour durer, et cela doit pousser les DSI à donner la priorité à sa mise en place intelligente. Bref, comme le rappelle un des DSI interrogés pour le bien de l'article, être attentif à l'expérience utilisateur. Voici les enseignements que moi j'ai retenus de mon côté que je trouve intéressants, Alain. Quels sont les enseignements, toi, qui ont attiré ton attention et
D'après toi, j'en ai dans ma petite liste, j'en ai retenu, t'en as pris 3, moi j'en ai eu à peu près 6, hein. Bon, j'étais un peu plus... D'après toi, j'en ai combien grand, ouais. Que t'as choisi sur ceux que t'as choisi?
Sur ceux que j'ai choisi, je dirais 2, le travail hybride, je pense que ça te parle, et la flexibilité, je dirais.
Eh bien, perdu sur la flexibilité, mais par contre, t'étais 2 sur 3, effectivement. Parce qu'effectivement, celui de l'adaptabilité, j'ai envie de dire, après Darwin, si tu t'adaptes pas, tu sais que tu vas pas survivre. Donc, si tu veux, j'ai envie de dire... Tu sais, moi, j'essaie de sortir un peu les tautologies. Tu vois, il faut que je retienne 2023, que c'est une année meilleure, et puis qu'il faudrait être plus fort, et puis qu'on soit plus sympa ensemble, et gagner plus d'argent. D'accord, super, oui, mais comment, voilà. Alors que justement, le comment m'intéresse à chaque fois. Et donc, le concret, tu vois, parce que le concret, c'est opposable. Tu peux le faire ou tu peux pas le faire. Et alors, le premier, moi, qui m'a vraiment plu, c'est « Il faut penser l'IT comme un jardin. » Et alors ça, j'ai adoré, parce que moi, je retrouve toujours cette fameuse phrase « Il faut cultiver son jardin. » Je crois que c'est du Voltaire, je ne vais pas dire de bêtises. Mais c'est quel jardin ils veulent faire les IT, les DSI? Parce qu'il y a le jardin à la française et le jardin à l'anglaise. Et ça m'a fait marrer, parce que je me suis dit, le jardin... En fait, les Français font du jardin à l'anglais. En France, on fait du jardin à la française avec des Anglais. Alors, je m'explique. Le jardin à la française, il n'y a rien qui dépasse. Tu coupes tout, c'est super carré, c'est super droit. Et donc, tu mets du Microsoft partout. Voilà, c'est super droit, parce qu'il n'y a que ça. Et puis, il y a 3 allées, c'est comme ça. Et bien, par contre, tu le fais avec donc des arbres anglais, américains. Voilà. Et qu'effectivement, là, dans ce qu'ils disent, c'est qu'il vaut mieux faire un jardin un peu ouvert, dans lequel tu laisses pousser des trucs, tu vois ce que c'est. Et moi, je peux te dire qui suis plutôt, effectivement, j'avais lu un petit bouquin, je t'en avais peut-être parlé une fois, qui s'appelle le jardin punk, dans lequel tu laisses pousser les trucs et tu vois ce qui se passe. Bah, des fois, tu as des fleurs incroyables qui arrivent, mais si tu avais passé la tondeuse tous les matins, tu n'aurais rien eu, rien. Voilà. Donc, oui, un jardin, oui, mais pas à la française. Voilà. Ne pas décaler les projets, moi j'ai gardé ça, parce que quelque part, même en disette budgétaire, décoller un projet, c'est toujours prendre encore plus de retard. Et ça, je pense que c'est très clair. J'ai beaucoup aimé aussi l'alignement vérifié encore et encore entre le... c'est que le début d'accord, d'accord.
Entre
les métiers et l'IT. Parce que... et pourquoi je trouve ça intéressant? C'est parce que si j'entends, oui, il faut aligner l'IT et les métiers, je l'aurais même pas pris comme sujet, d'accord? Tu vois? Mais quand tu lis, parce qu'il faut vérifier encore, encore, parce qu'on pense le faire et c'est pas le cas, là, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, l'alignement n'est pas quelque chose d'évident et que justement, c'est une vérification permanente et une boucle de rétroaction qu'il faut faire en temps réel, en permanence. Parce que dès lors qu'on a commencé à proposer un projet où on avait l'air d'être aligné, le fait de faire le premier pas dans ce projet peut être un désalignement. Quelque part, quand on regarde dans la vraie vie, c'est évident. Si je marche un pas, je peux commencer à partir dans une autre direction. Il faut qu'on se regarde en permanence si on va aller ensemble au même endroit. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on discute là, alors, des grosses réunions qui durent des heures, on est aligné et chacun part de son côté. Mais vous croyez qu'ils vont être alignés, ces gens-là? Non. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. L'alignement, c'est du physique, c'est du temps réel, c'est de la sueur, c'est de la confrontation, et c'est pas juste, à un moment donné, un truc diplomatique qu'on fait une fois, quoi. Voilà. IA global, tu l'as dit, donc je vais pas rajouter. Par contre, sur l'hybride, je me permets de rajouter, parce que c'est l'hybride avec tous ces trucs, et saupoudrer un peu de retour au bureau. J'ai adoré, parce que oui. c'était une façon de formuler ça comme une recette de cuisine, et c'est tellement juste. Sur cette question d'hybridation, on est tous confrontés à la recette de cuisine. Si tu commences à faire un gâteau et que tu mets un peu trop de sucre ou un peu pas assez de sucre, ça manque de sucre un peu. Ah, c'est trop sucré. Ça joue des fois à 5 ou 10 grammes près hein, dans les gâteaux. Hein. C'est la pâtisserie a ça d'incroyable. Et ben, c'est pareil pour le RH, pour le DSI, pour l'hybridation. Si vous êtes avec vos gros doigts boudinés, allez, 3 jours de télétravail ou 2 jours, vous pouvez casser un corps social. Alors qu'en fait, en saupoudrant ça, et j'aime bien cette idée, tout d'un coup, le truc, il apparaît il est praticable, il est même souhaitable. Donc oui, n'ayez pas peur de saupoudrer. C'est un terme qui a l'air comme ça, un peu péjoratif, mais moi, je le trouve intelligent, justement. Vous voyez, et non pas... Et puis, dernier truc, parce que ça, tu sais, c'était dans les presses internes de GenSpot, donc je ne peux pas m'empêcher d'avoir... Tu sais, il faut se préparer à l'inattendu.
Oui.
Tu te rappelles
ce
gif que j'avais mis où oui. T'as un gamin qui veut attraper son truc de cornflex, tu sais, et t'as un mec qui lui pique ses trucs de cornflex. Donc il faut se préparer, qui est très drôle, un gif qui n'a pas d'autre prétention que de faire rire, sauf à dire il faut se préparer à l'inattendu, que quelqu'un vienne vous piquer vos cornflex ou que vous alliez piquer les cornflex à quelqu'un. Soit on s'identifie au gamin qui se fait piquer les cornflex, soit on s'identifie au basketteur excité qui pique les cornflex. Vous avez le choix, justement, c'est pour ça, c'est la force des gifs, c'est qu'en fait, dites-vous toujours que vous vous identifiez à une personne, mais ça pourrait être à l'autre à qui vous identifiez. Hein. Donc voilà, mais cet article est très, je trouve, plus léger que d'habitude, tu vois, intéressant d'ailleurs.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai que ce genre d'article, c'est vrai qu'on les voit souvent dans le travail éditorial qu'on fait pour au-delà du live. Et c'est vrai que généralement, on a des gros pavés dont on t'explique le truc, le machin. Là, c'est vrai que ça allait plutôt droit au but et c'était plutôt plus léger.
Un peu de métaphore, c'est-à-dire que le DSI commence aussi à être plus léger. Écoute, dans la pâtisserie, on aime quand c'est croquant et léger. Donc les DSI, voilà, c'est magnifique.
Exactement. Merci Alain. Donc je vous invite, chers auditeurs, encore une fois, si le sujet vous intéresse, à aller dans la description, le descriptif de ce podcast. Vous aurez le lien vers l'article qui liste justement tous les enseignements des DSI. Merci beaucoup Alain. Je te propose de terminer. On est à un peu plus de 30 minutes de podcast par le traditionnel sujet mystère. Donc vu que j'ai rappelé un peu les règles de l'émission au tout début, évidemment on a un travail commun de collaboration avec Alain sur justement les sujets qu'on va aborder, parce que alors les actualités dans le numérique, c'est pas ça qui manque, surtout mois par mois. Donc le but, c'est de surprendre Alain un petit peu, de clôturer chaque épisode de la du live par une petite surprise. Voilà un sujet, le sujet mystère, donc Alain l'ignore. Ça peut, généralement ce sont des bonnes nouvelles, on essaie de terminer sur des notes positives, c'est quand même important, mais voilà, c'est des sujets qu'on a envie de mettre en lumière pour terminer les différents épisodes. Alors pour cet épisode 37, justement, j'ai décidé de revenir sur un événement que je ne connaissais pas, ou dont j'ai entendu parler mais brièvement, et qui a eu lieu du coup en décembre dernier. C'était le French Tech Tremplin. Voilà, qui est un programme initié en 2019 qui veut accompagner des talents venant de milieux socio-économiques défavorisés dans leurs projets d'entreprise. Donc, quand on dit milieux socio-économiques défavorisés, c'est habitants des quartiers prioritaires, bénéficiaires des minima sociaux, des réfugiés, des étudiants boursiers pour lesquels c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est une offre d'accompagnement qui est personnalisée, qui a été créée et qui s'articule autour de deux volets distincts. Le volet prépa, donc qui accompagne les porteurs de projets à l'étape de lancement de leur start-up, et le volet incubation, donc qui s'adresse plutôt à des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont déjà lancé leur startup en fait et souhaitent maintenant accélérer. Donc la dernière édition a eu lieu en décembre dernier. Elle a été dévoilée à Montpellier. Donc il y avait Jean-Noël Barrot, donc le ministre délégué chargé au numérique, et Clara Chapaz, qui est patronne de la French Tech, qui y ont dévoilé la liste des 224 lauréats qui bénéficieront d'un accompagnement par un incubateur partenaire pendant toute l'année 2024, ainsi que d'une bourse d'un montant de 22 900 euros. À noter, si on veut être plus précis par rapport au numérique, qu'il y a une, et je trouve ça très intéressant, qu'il y a une certaine diversité, on l'a dit dans cet épisode, c'est quelque chose qui est important pour toi Alain, dans les secteurs d'activité, puisque 16% des participants au programme d'incubation viennent de la Green Tech, 11% de la Health Tech, et de la fintech, et 9% des edtech. Voilà, donc c'est quand même assez ouais, diversifié. C'est... Et donc c'est de beaux projets, des projets de start-up qui sont soutenus justement par le gouvernement. Vu que tu es toi-même, je l'ai dit en introduction Alain, tu es entrepreneur et surtout tu es également coach en entrepreneuriat, en tête des entrepreneurs justement à structurer leur projet et à le lancer. Je pense que tu sais très bien qu'être bien entouré, accompagné quand on monte un projet, c'est super important. Et j'ai voulu souligner le côté quand même très sympathique de ce projet-là, justement, qui est soutenu, de voir des projets qui, en plus, sont très diversifiés. C'est au niveau, c'est pas seulement en Ile-de-France ou en région parisienne, hein, c'est vraiment des projets qui viennent des quatre coins du territoire. Donc, ça me semblait important de le souligner. Voilà.
Écoute, une magnifique initiative de la French Tech. Alors, French Tech Tremplin, est-ce que ça va être une discipline d'ailleurs olympique, c'est une question qu'on pourrait demander au ministre.
Pour les JO de cette année, oui.
C'est ça. Mais du coup, ça me fait penser à cette belle initiative. Moi, une qui avait aussi lieu à Montreuil, c'est là où sont nos locaux.
Oui.
Donc, il y a Generali, c'est l'assureur qui a une fondation et qui avait lancé un incubateur pour réfugiés. Je ne sais pas si tu te rappelles quand j'avais participé à Montreuil, voilà. Et en fait, la ville de Montreuil a mis à disposition plus ou moins des locaux, et puis Generali avait financé en fait tout ce parcours-là, et qui a pour vocation de tenir un autre regard sur les réfugiés que celle effectivement de gens qui sont là parce qu'ils ont un parcours de vie généralement terrible, hein, parce qu'ils sont expulsés de leur pays, ils partent généralement de manière assez terrible. Hein. Et il y en a beaucoup qui sont aussi entrepreneurs, et donc il y avait ce fait de reconstruire en fait leur vie ici. Et j'avais vu à quel point en fait il y avait des gens incroyables, et tu sens qu'on a une histoire de dingue, et comment c'est difficile quand tu arrives dans un pays où t'as pas la culture, t'as pas la langue, en plus les Français ils parlent anglais quand ils veulent, et dans lequel t'as pas le réseau. Donc, moi j'avais accompagné comme ça des entrepreneurs, et c'est vrai que par rapport à l'accompagnement des entrepreneurs, on va dire tradis que je fais, hein, qui peuvent être d'ailleurs de tous les milieux, hein, mais c'est vrai que tu vois un peu encore l'écart. Donc oui, il faut aider ces gens qui ont une capacité en plus incroyable et d'apporter d'ailleurs un autre regard sur les sujets, parce qu'ils ont une autre culture, une autre histoire. Ils étaient réjouissants d'ailleurs d'énergie. Tu vois, j'en suis tout ému quand j'en reparle. Mais par contre, il fallait mettre plus d'efforts pour le marchepied, en particulier parce qu'on est une société, il faut qu'on ait conscience de ça, nous les Français, pas si accueillante que ça sur la dimension linguistique. Hein, parles pas bien le français.
C'est compliqué.
Tu vois, là, j'étais justement en Belgique ce week-end. Tu vois déjà la différence parce qu'ils ont deux langues et donc y a une acceptation des autres langues beaucoup plus forte. Ils parlent anglais plus naturellement. C'est aussi peut-être ce qu'on devrait retenir de ça. Et d'ailleurs, tu vois, French Tech, donc voilà, mais il faudrait peut-être un peu s'ouvrir linguistiquement. C'est peut-être aussi l'avenir de notre culture.
Merci beaucoup Alain, c'est la fin de l'épisode 37 d'Au-delà du live. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. On espère que cette nouvelle plongée dans les actualités numériques vous a plu. Merci Alain.
Merci à toi, mais c'était un super démarrage d'année, dis donc.
Eh oui, bah, tu sais, il faut toujours. C'est le démarrage et l'arrivée, c'est quand même des moments assez qu'il faut soigner. C'est ce que, vraiment ce qu'on fait au-delà du live, début d'année, fin d'année, on fait les choses bien.
On ne perd pas au milieu, c'est ça
ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça ne veut pas dire que, voilà, on vous proposera des épisodes au rabais en milieu d'année, vous inquiétez pas. Au-delà du live revient, comme vous l'avez expliqué, le mois prochain, durant, voilà, généralement sur les épisodes au milieu du mois. Pour vous parler des actualités du mois précédent. En attendant, d'autres émissions sont bien sûr à découvrir sur la chaîne Les Voix du Digital. Bonjour les spotters, donc la revue d'actualité hebdomadaire d'Alain, les podcasts experts où Alain ou moi-même allons à la rencontre justement des personnalités qui font le numérique, qui construisent le numérique, ou encore, je vais pas mentir, c'est un de mes petits chouchous, Alternative Numérique, qui est un échange entre Alain et deux autres entrepreneurs justement issus de la French Tech. Mathieu et Valentin Prisulski que l'on salue, voilà.
Oh, salut, hello.
Et un épisode d'ailleurs est prévu, si je ne dis pas de bêtises, pour le mois d'avril. Mais voilà, vous savez, réunir trois entrepreneurs autour d'un micro, ça peut sembler évident et ça ne l'est pas du tout, puisque justement ils sont toujours sur le terrain. En tout cas, des rencontres, des analyses, des échanges. Tout ça autour du numérique, bien sûr. N'hésitez pas à aller faire un tour, Les Voix du Digital. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également pour ne rien rater des prochaines émissions. N'oubliez pas de déconnecter de temps en temps, c'est quand même important. Et on vous donne rendez-vous, Alain et moi, très bientôt pour de nouveaux podcasts. À bientôt.
À plus.